Vous nous parlez aujourd'hui de l'impact de fond de l'intelligence artificielle.
Oui, parce que, enfin c'est banal de le souligner, mais il n'est de jour où nous ne lisions ou n'entendions évoquer de nouvelles, je dirais entre guillemets peut-être, prouesses dues à l'intelligence artificielle.
Et ça vous surprend ou ça vous dérange, Daniel?
Non, en soi, non. L'intelligence artificielle est un outil extraordinaire, actif depuis longtemps, je dirais même avant d'être qualifié comme tel, et que ce soit devenu un thème de discussion, voire de débat. Nous y recourons tous sans même y faire attention. Notre téléphone ou notre ordinateur corrige nos fautes d'orthographe ou propose des corrections qui ne sont d'ailleurs pas toujours très opportunes parce
oui,
qu'on s'aperçoit que de temps en temps, on nous propose des erreurs manifestes. Mais ça sème le doute. Ils sont programmés via les cookies pour susciter nos envies à partir des sites que nous visitons. Alors on nous propose des biens ou des services qui correspondent à notre profil tel qu'il a été établi. Avec ce petit côté amusant, c'est que parfois, consciemment ou non, mais nous faussons notre profil.
Notre recherche.
L'exemple qui me vient à l'esprit, qui procède d'une petite enquête que j'avais menée il y a quelques années, c'est que les sites de vente par correspondance de vêtements, plus que de chaussures, reçoivent des commandes qui ne correspondent absolument pas à la personne qui commande. En clair, une dame dodue comme moi et qui le gère mal va commander du taille 40 dans lequel elle n'entrera pas pour ne pas recevoir systématiquement les publicités grande taille. Donc ça montre qu'on peut la manipuler de temps en temps jusque dans certaines limites. Alors il y a une interaction constante entre l'intelligence artificielle et nos comportements qu'elle induit. Dès lors qu'on en prend conscience, qu'il s'agit de publicité commerciale, après tout, on n'est jamais obligé de suivre, ce qui est parfois plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il y a de l'insistance.
Et oui, il y a de l'insistance, mais n'est-ce pas déjà une source d'inquiétude ?
Oui, ma dernière observation d'ailleurs va dans ce sens, parce que on franchit une étape importante par rapport à la publicité ordinaire, et il est d'autant plus difficile d'y résister qu'on ne s'en rend pas compte. Et ce qui est le plus grave, c'est le formatage du goût, des préférences, éventuellement au profit d'intérêts extérieurs. On peut sans peine imaginer, je crois qu'on est déjà au-delà de l'imagination, des manipulations qui peuvent avoir lieu à une très grande échelle. Et elles ont un impact non seulement sur les individus et leurs choix, donc modifient dans des proportions évidemment qui varient leur mode de vie, mais éventuellement des pans entiers de l'économie. Hein, vous évoquiez tout à l'heure hors antenne le mot éthique qui revient à toutes les sauces, c'est devenu un élément commercial qui n'a souvent rigoureusement rien à voir avec la réalité.
Est-ce là, Daniel Cavanis, le seul sujet de préoccupation ?
Non. Non, la combinaison des informations relatives à chaque individu, bon, peut-être aussi, et là ça me paraît bien bien plus inquiétant, un outil très efficace du totalitarisme. L'exemple qui vient évidemment immédiatement à l'esprit, c'est la Chine. Les Chinois ont mis au point un système de reconnaissance faciale qui permet de suivre chaque individu presque pas à pas, donc de contrôler les comportements et par conséquent de sanctionner tout ce qui est déviant tel que le définit le pouvoir. C'en est vite fini de la liberté individuelle, chacun étant potentiellement coupable de violation de l'ordre social. Et là, il n'y a pas du tout de place pour la présomption d'innocence. Mmh. Les sanctions tombent automatiquement. Donc le formatage mental des individus est tel qu'ils sont assez facilement manipulables et qu'il faut une intelligence hors du commun, doublée d'une grande force de caractère pour y résister et garder, à défaut de sa liberté de parole et d'action, au moins sa liberté de penser Et dans un cas qui peut nous intéresser à cette radio, sa liberté de croire, puisque on sait que la foi fait parfois l'objet d'une certaine tolérance et puis parfois pas du tout et de manière inattendue. Donc il y a là une emprise du monde politique ou du gouvernement sur les citoyens dont la qualification de citoyen me paraît remise très sérieusement en question, même s'ils votent, bien sûr. Mais ils votent sur un candidat unique qui réussit ses scores magnifiques de 98,9%.
C'est louche. Vous évoquez, Daniel Cavanis, une situation de dictature en parlant de la Chine. Est-ce que vous croyez que le risque peut être universel ?
Alors, je le crains. Les outils actuels de correction du langage et de structuration de l'expression ne sont pas innocents dans leurs réponses. Ils font ce qu'on leur a appris à faire. Ainsi, sont-ils susceptibles d'être politiquement orientés, donc orienteurs de ceux qui recourent à leurs services sans qu'ils s'en rendent compte. Ainsi en va-t-il de ChatGPT ou autre Bing. Défendre un point de vue n'est pas en soi critiquable, mais à condition d'être identifié ou tout au moins identifiable comme tel. On a alors affaire à une ressource qui relève de telle ou telle mouvance. Si un correcteur orthographique est neutre, a priori, un correcteur de style l'est moins, dès lors qu'il choisit un niveau de langage, ce qui peut être à l'origine de ségrégation ou au contraire de rapprochement. À partir du moment où on apporte des réponses de fond, toutes les manipulations sont possibles, notamment en jouant sur la forme des réponses. ChatGPT en particulier a fait manifestement un choix politique qui correspond à la louche, il faudrait nuancer, c'est pas le lieu ni le moment de le faire, mais qui correspond à peu près à la partie la plus à gauche du camp démocrate américain. Donc il fournit à la louche des réponses dans le style woke, à toutes sortes de questions qu'on peut leur poser, ce qui en soi n'est pas gênant, à partir du moment où on sait que c'est une des réponses possibles. Elle est peut-être dans l'absolu la bonne réponse, dans certains cas c'est sûrement vrai, mais dans d'autres cas cela mérite en tout cas discussion ou une adhésion après réflexion et non pas une adhésion par imprégnation, par capillarité. Donc là, il y a un risque véritable parce que ça devient un anesthésiant de la pensée libre.
Oui. Et pour autant, est-ce qu'il faudrait se priver de l'intelligence artificielle ?
Non, surtout pas. Surtout pas. C'est un outil extraordinaire, notamment un outil d'apprentissage qui peut être extrêmement utile pour toutes sortes de gens. Donc surtout ne pas s'en priver. Il peut compenser une partie des lacunes quantitatives en matière d'enseignement en s'associant à l'enseignement classique ou traditionnel. Mais je crois qu'il faut imposer des règles qui protègent la diversité des points de vue, respecte la liberté de jugement et ne soit pas à notre insu des outils de la pensée unique, même lorsqu'elle procède d'un certain politiquement correct qui ne saurait se transformer en une forme de dictature, même soft. La dictature, c'est toujours mauvais.
C'est toujours mauvais. Merci beaucoup, Daniel Cavanis, pour ce billet sur l'impact de fond de l'intelligence artificielle. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec joie.